Chapitre 25.
Cette saloperie fait vraiment chier, grommela Tchak.
Ils étaient arrivés au sommet d'un col où subsistaient quelques ruines de ce qui avait été autrefois un village. La neige et une végétation pétrifiée submergeaient les murs effondrés des maisons de pierre. Ça et là, se devinaient des carcasses d'engins, camions, automobiles, chars, assaillis par les mêmes plantes grimpantes qu'on rencontrait partout en Europe et qui, elles, semblaient parfaitement s'accommoder de l'hiver. Le bleu transparent du ciel, ourlé d'un or blême, annonçait une température particulièrement basse. La saloperie dont parlait Tchak était l'épaisse couche de verglas sur laquelle les véhicules, malgré les chaînes posées sur les roues, patinaient depuis l'aube. Au moment du départ, le chauffeur était revenu s'installer au volant sans daigner fournir d'explications à son absence prolongée, aux grandes dames de Moram qui avaient pris goût à la conduite du camion de tête, et qui, de dépit, s'était réfugié dans la couchette dont il avait tiré le rideau. Deux jours plus tôt, une guetteuse, une jeune femme, avait été retrouvée gelée sur la plateforme. Ni les premières frictions, ni les remèdes de Raïma n'avaient pu la ramener à la vie. Solman avait donc supprimé les tours de guet et rassemblé les chauffeurs pour leur recommander la plus grande vigilance.
« Qu'est-ce que tu veux qu'on surveille, boiteux ?» avait protesté l'un d'eux. « Il n'y a pas d'autres tordus que nous dans ces putains de montagnes. »«
Tu oublies les Bakou ?»
avait rétorqué Solman. « C'est taré ! Ils n'ont même plus les moyens de faire mal à une mouche !»«
Peut-être, mais si eux ont la capacité de survivre en montagne pendant l'hiver, d'autres peuvent y arriver. D'autres qui ont les moyens de faire mal. Des chiens, par exemple, ou des solbos.
« On aimerait mieux repartir vers le sud !» avait crié quelqu'un d'autre. « En roulant à l'économie, on a encore une bonne chance d'arriver au relais de Catalogne !»
Plusieurs chauffeurs avaient grogné leur approbation. Le feu attisé par Raïma et les deux anciens membres du conseil gagnait l'ensemble de la caravane, et Solman ne disposait que de sa détermination pour l'éteindre.
« Ils nous attendent sur les pistes du sud comme ils nous ont attendus au relais de Galice. Vous avez entendu les Bakou ? La guerre se rapproche par l'est, et je pense qu'elle vient aussi par le sud. On préfère se battre plutôt que de crever de froid dans ces montagnes du diable !»
Nouveau cœur de grognement, de vociférations. Certains avaient brandi leurs pistolets ou leurs fusils au-dessus de leur tête.
« Vous battre ! Quelle chance vous ont laissé les Slangs au relais de Galice ? Quelle chance vous ont laissé les chiens dans le nord de la France ? Quel rapport entre les Slangs et les chiens ? Ils sont les soldats de la même armée, ils obéissent à la même intelligence, comme votre ancienne mère Catherine. Souvenez-vous de ses paroles avant sa mort. Tu n'es pas de taille à empêcher l'avènement des temps nouveaux. Une créature a décidé d'exterminer les derniers hommes, et nous n'avons pas d'autre choix pour le moment que de mettre la plus grande distance entre elle et nous.
« T'es aussi fou que l'était mère Catherine, boiteux !»
avait glapi un vieux chauffeur.
« Et nous avons été fous de t'écouter. Cette guerre, cette créature, n'existe que dans ta tête !»
Solman l'avait rapidement sondé et avait discerné la sourdine irritante de Guenuvert dans ses vituperations.
« À qui faites-vous confiance ? À ceux qui vous ont conduit dans le piège de Galice ? Ou à celui qui vous en a sorti ?»
Son ton cassant avait rétabli le silence. Les chauffeurs avaient baissé la tête et remisé leurs armes. Ils étaient les mieux placés pour savoir ce que le peuple de l'eau devait à son donneur. Sans lui, ils n'auraient jamais trouvé la sortie de l'enfer de feu et de fumée qui s'était abattu sur le relais de Galice. Sans lui, pas un aquariote n'aurait survécu. Ils l'avaient suivi comme un troupeau affolé, aveugle. Ils n'avaient pas trahi leur confiance. Et eux, en retour, ils prêtaient une oreille complaisante à ceux qui répandaient le bruit de sa folie, à ceux-là même qui avaient la responsabilité de la mort de 3000 des leurs, la mort d'enfants, de parents, de proches, d'amis. Ils avaient pris conscience à cet instant de leur duplicité, de leur inconséquence. Et l'un après l'autre, sans dire un mot, ils avaient regagné d'un pas lourd leur camion.
Qu'est-ce que c'est encore que ce merdier ?
Chuck désigna les coulées de neige qui dévalaient le sommet voisin et se transformaient un peu plus bas en avalanches. Elles explosaient comme des vagues déferlantes sur les reliefs rocheux, sur les arbres, se pulvérisaient en gerbes titanesques, se reformaient en dizaines de ruisseaux fourmillants qui gonflaient en torrents et continuaient leur course folle vers les profondeurs des vallées. Le camion de tête venait tout juste de laisser les ruines derrière lui et de déboucher toujours en patinant sur le faux plat précédant la descente. Le massif se dévoilait maintenant dans toute sa splendeur. Un océan de blancheur, brisé par les jaillissements des crêtes, par les replis sombres des parois verticales et dénudées. De la piste, on ne distinguait qu'un vague mouvement sinueux qui se perdait au loin dans un désert miroitant. Une première série de tremblements agita le camion, comme s'il roulait sur une piste jonchée de pierres et de nids de poules. Chuck jeta un coup d'œil sur le rétroviseur extérieur, pour s'assurer que les secousses n'avaient pas détaché la voiture et la remorque accrochées à la citerne. La veille, Raïma avait demandé à être déplacée au milieu du convoi, afin, avait-elle affirmé, d'être plus facilement accessible à tous ceux qui réclamaient ses soins et qui seraient de plus en plus nombreux dans les jours à venir. Prévenue par les chauffeurs, Solman avait sauté sur l'occasion de proposer un échange avec la voiture de Mayel et les deux Albins. À la grande fureur de Mayel, qui assimilait cette proximité avec le donneur à une pénitence. Il avait désormais le loisir d'aller prendre des nouvelles de Khadija à chaque arrêt de la caravane. L'état de la jeune femme restait stationnaire. Elle respirait faiblement, son pouls battait en sourdine, mais son corps ne donnait aucun signal qui présageât un retour à la conscience. Et Solman captait toujours d'elle ce silence morne, caractéristique d'un état végétatif. Il n'avait pas encore essayé de tirer cette affaire au clair. Autrement dit, de confondre Raïma, parce qu'il n'avait pas de temps ni d'énergie à y consacrer tant que le peuple de l'eau ne serait pas à l'abri. Mais il avait proposé une arme à Ismaïl, un pistolet récupéré et rafistolé par le dernier armurier du peuple Aquariot. Le vieil homme l'avait refusé avec une moue perplexe. « D'abord, je crains que cet engin ne m'explose entre les mains, et ensuite je n'ai... ni l'envie ni la volonté de m'en servir. En ce cas, vous devrez verrouiller votre porte à chaque halte de la caravane, avait conseillé Solman. Si Khadija en réchappe, une éventualité qui lui paraissait de plus en plus improbable, on cherchera encore à la tuer. Notre pauvre Mayel risque de ne pas apprécier. Elle ne maîtrise plus très bien certaines fonctions physiologiques, et une porte verrouillée peut avoir pour elle des conséquences désastreuses. Qu'elle utilise un seau. Les humains exigent en principe un minimum d'intimité pour ce genre de choses. Vous en parlez comme si tout cela ne vous concernait pas. Ismaïl lui avait adressé un sourire sibyllin et s'était tourné vers la couchette où reposait Khadija, lui signifiant que l'entretien était clos.
« On dirait que la terre tremble !» s'exclama Chuck.
Les vibrations du volant lui meurtrissaient les poignets. Les avalanches se succédaient à une cadence effarante sur le sommet voisin. La montagne donnait l'impression de se secouer de fond en comble pour se débarrasser de sa carapace neigeuse, et ses tressaillements se propageaient aux pics environnants dont les flancs se couvraient des premières coulées, ténues pour l'instant, comme des voiles de farine dispersées par un courant d'air sur une nappe. Moram écarta le rideau de la couchette, vint s'asseoir aux côtés de Solman et se versa une tasse de kawa. Même s'il avait gardé ses vêtements, il venait tout juste de se réveiller, comme l'indiquaient ses yeux hagards et ses gestes fébriles.
« Des ennuis, on dirait », marmonna-t-il après avoir vidé la tasse d'une traite. « Des ennuis, si tu veux mon avis, ça fait un bon moment qu'on patauge dedans. » grogna Chuck.
Il roula encore sur un demi-kilomètre, puis les secousses le contraignirent à actionner la sirène à trois reprises, à s'arrêter et à couper le moteur. Ils descendirent pour inspecter le camion, la citerne et les attaches. Seules quelques plaques de rouille s'étaient décrochées de la voiture de Mayel et des deux Albins. Succédant à la chaleur de la cabine, Le froid intense transforma les mains et les pieds de Solman en blocs de glace. Il ne sentait plus le bout de ses doigts. Et sa jambe torse, mal irriguée, n'était plus qu'une ombre lointaine et douloureuse, vaguement rattachée à sa hanche. Au sol, sans les amortisseurs et le tampon des roues, sans le bruit du moteur, l'amplitude et les grondements sourds des tremblements prenaient une dimension écrasante, effrayante. Des pentes douces qui bordaient la piste jaillissaient une écume neigeuse qui restait suspendue autour des camions comme une brume persistante et mordante. Une congère se détacha d'un rocher, s'écrasa sur la remorque qui servait de chambre à Solman en défonçant la bâche. Ismaël sortit de la voiture, suivi quelques secondes plus tard de Mayel. La vieille femme eut à peine posé le pied sur le sol instable et glissant qu'une nouvelle secousse la déséquilibra, la renversa, l'envoya percuter l'accotement. Chuck et Moram l'aidèrent à se relever, à remettre ses chaussons, à épousseter sa robe de chambre largement ouverte sur une épaisse chemise de nuit. Elle ne quittait jamais ses vêtements d'intérieur, de reine de la voiture. « Vous devriez rester chez vous jusqu'à ce que le tremblement de terre se tasse, » dit Moram. Elle se libéra des deux hommes, d'une torsion rageuse du buste, et s'avança vers Solman, les cheveux ébouriffés, l'œil noir, la bouche tordue, les poings fermés.
« Ça ne se tassera jamais ! Il le sait bien, lui ! Il sait que nous sommes condamnés ! C'est le diable qui parle à travers sa bouche !»
Sa voix habituellement geignarde était une litanie de hurlements qui s'échappaient de sa gorge comme des flèches aux pointes ébréchées.
« Il a introduit des démons parmi nous. Cette fille, elle a mangé du poison des plantes grimpantes et elle n'est pas morte. Pas morte. Et lui ?»
Elle pointa sur Ismaël, un index accusateur.
« Il dit des choses étranges. « Horrible ! Il ne dort pas ! Il ne dort jamais ! Ne comprenez-vous donc pas que ce sont des monstres ? Ne voyez-vous pas qu'ils nous conduisent tout droit en enfer ?»
Ses imprécations s'étranglèrent en sanglots. Elle tomba à genoux sur la glace et y demeura prostrée jusqu'à ce que Moram la relève et l'entraîne doucement vers la porte de la voiture. Quelques chauffeurs approchaient à pas prudents du camion de tête. Les secousses, presque continues désormais, multipliaient les chutes de congères au long de la piste et obligeaient les hommes à s'agripper aux saillies métalliques des citernes ou des remorques. Le grondement montait des profondeurs de la terre, enflait en un tumulte assourdissant, ravageur, s'amplifiait dans les colonnes vertébrales, dans les cages thoraciques, dans les têtes. La clarté du ciel, si lumineuse quelques instants plus tôt, se troublait d'une nue vaporeuse et noire, criblée de parties grises. Votre tremblement de terre est en réalité une éruption volcanique, dit Ismaël.
Ça nous fait une belle jambe de savoir ça, maugréa Tchak.
Non, mais ça vous intéresse sûrement de savoir que la terre cessera bientôt de trembler, reprit le vieil homme. Dès que le magma aura crevé le tampon du conduit central. Et il touche au but, si j'en crois cette fumée. Ensuite, deux possibilités. Lave ou tephra. Liquide à 1500 degrés ou éclat de roche. L'un et l'autre seront projetés à une hauteur variable selon la force de l'éruption. Placés comme nous le sommes, ni les coulées de lave ni les fragments de tephra ne devraient nous atteindre. Mais il y a l'air, la chaleur, les gaz, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, azote, et d'autres encore. Les vents nous apportent déjà les scories. Si nous restons ici, nous risquons, disons, des complications respiratoires, et le convoi sera enseveli sous une couche de cendres qui pourrait endommager les moteurs de manière irréversible.
« Quelle solution proposez-vous ? » demanda Solman.
« Filez immédiatement. » Essayez de prendre l'éruption de vitesse. Vers le nord ou vers le sud? Les volcans ne s'embarrassent pas de ce genre de détails. Je croyais ceux du massif central éteints depuis des siècles et des siècles. Il faut croire que les plaques tectoniques ont bougé qu'ils ont reconstitué d'une manière ou d'une autre leur chaudière, leur chambre de combustion.
« Vous parlez comme un savant de l'ancien monde, » gronda Tchak.
L'expression avait claqué comme une insulte dans la bouche du chauffeur. Ismaïl lâcha le pare-choc de la citerne auquel il s'agrippait et se dirigea à grands pas vers la porte de la voiture.
« Je ne peux pas laisser Khadija seule avec cette vieille folle !»
cria-t-il en grimpant sur le marchepied. Il posa la main sur la poignée, se retourna et ajouta d'une voix forte pour dominer le grondement
« Certains savants de l'ancien monde croyaient justement tout savoir, comme les prêtres avant eux. Et leur imprudence est l'une des causes majeures de la ruine humaine. Je suggère que nous poursuivions vers le nord. Les vents sont au sud. »
Après une première descente, la piste était repartie à l'assaut des lignes de crête qu'elle longeait depuis maintenant 4 kilomètres. Elle piquait tout droit sur le sommet en forme de vase qui crachait un énorme panache de fumée noire, épaisse, chargée de scories. Le monde semblait se résumer à un affrontement entre le blanc et le noir, entre le chaud et le froid. Tchak conduisait aussi vite que possible sur le verglas, lançant parfois le camion dans un travers qu'il rattrapait avec d'infinies précautions. Les yeux de Solman volaient sans cesse du volcan réveillé au rétroviseur extérieur pour surveiller à la fois le comportement de la voiture accrochée à la citerne et la progression des autres camions. La caravane restait groupée pour l'instant. Aucune sirène de détresse n'avait retenti. Le ciel s'était tendu tout entier d'un voile sombre, d'une nuit précoce et menaçante qui occultait les reliefs et répandait une forte odeur de soufre.
On peut lutter contre des hommes, pas contre la nature, marmonna Tchak.
Pas la peine de nous avoir tirés du piège de Galice si c'était pour nous fourrer dans ce pétrin, traduisit Solman. Il ne répondit pas. Mais la réflexion du chauffeur agit sur lui comme un signal et l'entraîna à fermer les yeux, à déployer sa vision pénétrante, la vision qui traversait les niveaux sensoriels, mental et émotionnel. La vitesse à laquelle il lâcha les prises et plongea en lui-même le suffoqua, le paniqua, le ramena brutalement à la surface, au ronflement du moteur, à l'odeur de soufre, à la fumée noire, à la neige souillée par les scories volcaniques, à la respiration saccadée de Moram assis à son côté. La piste descendait en une succession de lacets vertigineux qui tantôt se rapprochaient du volcan, tantôt s'en éloignaient. La bouche du vase crachait des fragments rocheux plus ou moins volumineux qui retombaient sur ses flancs après avoir décrit une courbe grise et majestueuse dans les entrelacs de fumée. Solman attendit que s'apaisent les battements de son cœur pour à nouveau se retirer en lui-même. Il contrôla cette fois son souffle et atteignit les profondeurs de l'être de manière progressive, ou qui lui sembla progressive. Il retrouva avec un mélange de plaisir et d'effroi cette sensation de dispersion dans le vide, d'abandon de ce qui constituait son moi, son spectre de perception, sa définition par l'espace et le temps. Sa vision ne l'emmena pas sur le convoi, sur la piste, sur le volcan. Elle le propulsa vers Khadija. Il ne la voyait pas. Il ne flottait pas dans la voiture où depuis plusieurs jours elle restait figée dans un coma désespérant. Il était en elle. Il baignait dans son souffle, dans sa chaleur, dans son essence. C'était impalpable et pourtant mille fois plus réel, mille fois plus intense que s'il l'avait vu, entendu, senti, touché. Elle utilisait une fonction réparatrice de son organisme. Du moins, c'est ainsi qu'il le ressentit, pour isoler les molécules de poison diffusées dans son sang et les neutraliser avant qu'elles ne gangrènent les cellules. Elle avait suspendu, ou fortement ralenti, toutes les autres fonctions vitales. Elle livrait contre un ennemi attentif, opiniâtre. Un combat obscur qui requérait une vigilance et une patience de tous les instants. D'elle, il découvrait des bribes, des éclats de souvenirs indispensables à sa guerre. Des couloirs, des salles immenses, lumineuses, silencieuses, ouvertes sur un ciel merveilleusement étoilé. Un corps qui ne grandit pas, qui ne bouge pas, qui existe à peine. Une impression de légèreté inouïe dans un monde confiné. Elle puise ses armes dans une somme de connaissances gigantesques, non pas dans des livres ou des machines, mais en elle, dans une mémoire infaillible. Ses pensées finissent toujours par buter sur le mur de vide qui brise ses élans profonds. Un manque à peine perceptible et pourtant obsédant, à la manière d'un membre amputé. Solman ressentit la souffrance de ce manque, une douleur inexprimable, effroyable, qui, parce qu'elle était inscrite dans la nature même de l'être, ne pouvait pas être apaisée. En elle cohabitaient deux femmes, l'une consciente, qui l'avait ravie par la pureté de son chant lors de leur première rencontre, l'autre inconsciente, piégée par un mal indécelable, innommable.
Commence. Feu. Oh. Idée.
Solman émergea, hébété, frigorifié, dans la cabine bruyante du camion de Tchak. Une haleine sulfureuse et glaciale lui mordillait le visage. Des éclats de verre s'étaient détachés du pare-brise fendillé. Moram essayait de reboucher les fissures à l'aide des bouts d'un drap qu'il découpait frénétiquement avec son grand couteau.
« Ça commence à cracher le feu là-haut, » répéta Tchak. « T'as pas une idée ?»
Le volcan tirait des salves répétées de lave qui s'élevaient au milieu de la fumée comme les pétales d'une formidable corolle incandescente, s'affaissaient en filaments rougeoyants sur la neige et s'écoulaient en torrents dorés sur les versants. La première réaction de Solman fut d'admirer ce spectacle, le plus grandiose auquel il lui eût été donné d'assister depuis sa naissance. La terre, cette terre que les hommes avaient piétinée, éventrée, saccagée comme des enfants irrespectueux, jouait de temps à autre avec le feu, l'air et l'eau, pour montrer qu'elle vivait, qu'elle, la nourricière généreuse, était capable de colère renversante, de fureur somptueuse.
« Ce crétin d'Albin s'est foutu de notre gueule !» rugit Tchak. « La lave arrive droit sur nous !»
Les torrents bouillonnants d'une lave presque aussi fluide que de l'eau se déplaçaient à une vitesse étonnante, se jetaient l'un après l'autre dans un fleuve d'or en fusion qui, effectivement, avançait en direction du camion de tête.